Chalim était compté. Bonjour à tous, résumé des chapitres précédents, ou plutôt du dernier chapitre. Lors de notre dernière émission, nous avons évoqué la menace de répudiation d'Isabelle de Hainaut par le roi Philippe Auguste pour faire pression sur le comte de Flandre. La cérémonie de réconciliation avait eu lieu devant le palais de Senlis et André nous en a fait une narration détaillée. Mais cette menace de répudiation ne suffit pas. Car après quelques manœuvres, le comte de Flandre, Philippe d'Alsace, se jette sur Corbie puis sur Béthisy, un château royal, n'oubliez pas. Philippe II alors concentre sa puissante armée sur Compiègne. Le comte de Flandre demande la paix. Finalement, le traité de Beauvre qui s'ensuit en juillet 1185 donne au roi les seigneuries d'Artois, du Valois, d'Amiens et une bonne partie du Vermandois. Le Vermandois avec sa capitale Saint-Quentin, pour préciser un petit peu les choses. En 1187, Isabelle de Hainaut donne naissance à un garçon qui allait devenir roi sous le nom de Louis VIII. Louis VIII, le lion. Mais hélas, Isabelle meurt en 1190. À cette même période, quelques mois plus tard, en 1191, a lieu la consécration de la cathédrale de Senlis par l'archevêque de Reims, beau-frère de Louis XVI, frère d'Adèle de Champagne, mère de Philippe Auguste. En 1188, on refait un petit tour en arrière, là, à la demande du légat du pape, les deux rois, on va dire roi de France, roi d'Angleterre pour plus de facilité, mais ce n'est pas tout à fait exact, les deux rois Philippe, Philippe II, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion partent pour la troisième croisade. Par la suite, les guerres reprennent et finalement, Henri II va capituler devant Richard et Philippe. Henri II, Plantagenet, il s'agit à ce moment-là d'une guerre, je dirais, interne chez les Plantagenets entre un des fils, Richard, et Henri II. Finalement, Henri II meurt quelques temps plus tard et il est inhumé à Fontevraud. Le 14 août 1193, autre mariage, un bien curieux mariage. Il se déroule alors à Amiens. Philippe II, toujours Philippe d'Auguste, épouse Ingeburg de Danemark. Elle est née vers 1174. Mais, aux surprises, dès le lendemain du mariage, le jour même du couronnement de la reine, Philippe demande l'annulation de ce mariage. Et c'est vrai que la surprise est générale, et encore actuellement, on ne sait pas trop pourquoi. Cette annulation va être aussi rapide, cette demande d'annulation va être aussi rapide. En quelques mots, Ingeburg est une descendante à la cinquième génération du roi Harold II, ce fameux Harold qui a été tué dans la bataille d'Hastings en 1066. Et à ce titre, d'ailleurs, elle pourrait prétendre à la couronne anglaise. Quelle était l'idée de Philippe Auguste lorsqu'il demande la main d'Ingeburg de Danemark? Eh bien, tout simplement, c'est de pouvoir avoir l'appui des Danois afin d'envahir l'Angleterre. Oui, mais le roi Knut VI du Danemark, frère d'Ingeburg, refuse de prêter ses navires. Il avait promis une dot de 10 000 marks d'argent, payable en plusieurs fois, mais avant il exige que, dès son arrivée dans le royaume, sa sœur soit traitée en reine. Bah, peut-être il se méfiait un petit peu, puisque la reine précédente avait été menacée de répudiation, vous vous souvenez, Isabelle. Alors à ce moment-là, le roi avait 28 ans et la reine 18. On comparait Ingeburg à la belle Hélène. Le mariage ne fut pas consommé. Le roi ne la voit plus qu'avec horreur. On est donc passé en une nuit au moins du respect, un rejet absolument viscéral. Et surprise, après le couronnement, non seulement la jeune reine est en quelque sorte répudiée, mais on l'emprisonne dans le couvent de Cisoing. Et Philippe II va de nouveau demander la dissolution de ce mariage. Il va l'obtenir du cardinal de Reims, qui, comme vous le savez, n'est autre que son oncle. Seulement devant le comportement irréprochable de la reine, l'évêque de Tournai écrit une lettre au cardinal de Reims, Guillaume au Blanchemain, donc frère de la reine Adèle, comme on vient de le voir, en essayant d'intercéder pour la reine, mais Philippe ne fléchit pas. il espère toujours la décourager en lui faisant subir des conditions de détention, on peut bien le dire, assez redoutables. Et finalement, le pape Célestin III casse le divorce et Philippe s'oppose à la divulgation de cette décision. Oui, je suis allé très vite. Grâce à l'entremise de l'archevêque de Reims, le divorce est prononcé, mais ça ne va pas durer longtemps, puisqu'effectivement, on vient de le voir, le pape va casser cette décision. Philippe n'en tient pas trop compte. Et en 1196, il se marie avec Agnès de Méranie. Le nouveau pape Innocent II lui enjoint de se rétracter. Philippe fait la sourde oreille. Alors, et là c'est vraiment très grave, le pape prononce l'interdit sur tout le royaume, et ceci en 1200. Si l'on revient vers Chély, on va s'apercevoir que l'abbé de Chély de l'époque, Guillaume du Donjon, vous savez, celui qui deviendra Saint Guillaume, et qui était à l'époque abbé de Chély, suivant le pape Innocent III, va intervenir auprès de Philippe pour qu'il renonce à répudier Ingeburge. On ne sait pas pourquoi un tel soutien papal. Si, quand même, parce que d'une façon générale, il y a toujours eu des liens très étroits entre les cisterciens et la papauté. Finalement, un concile se tient à Soissons et il oblige Philippe à renoncer à la cassation du mariage avec Ingeburge. Alors, bon gré mal gré, en 1212, Philippe Auguste rend sa place de reine à Ingeburge, sa place de reine et non d'épouse, pas sa place d'épouse. Alors là, on glose, hein. A-t-il eu quelques difficultés lors de sa nuit de noces ? Difficultés dues à des gestes de sorcellerie d'Ingeburge, avait-on dit en 1201. Quoi qu'il en soit, le roi continue sa vie avec Agnès Méranie, dont il a deux enfants, un garçon, Philippe Urpel, qui deviendra comte de Boulogne, de Clermont et de Dammartin par son mariage avec Mathilde de Dammartin, fille de Renaud, le fameux Renaud de Dammartin qu'on va évoquer bientôt. Il a une fille, Marie de France, et il aura même un troisième fils, non pas d'Agnès de Mérandie, mais d'une dame qu'on appelle la dame d'Arras. Et on va l'appeler Pierre Charlot. En 1201, Agnès de Mérandie décède. Et elle décède d'ailleurs quelques mois plus tard, donc en donnant naissance à un troisième enfant. Cela dit, la guerre entre Philippe et Richard Cœur de Lion va reprendre. Je vous rappelle que Richard était roi d'Angleterre, duc de Normandie, d'Aquitaine, comte de Poitiers, d'Humaine, comte d'Anjou. De retour de croisade d'ailleurs, où les choses ne se sont pas très bien passées entre Philippe et Richard Cœur de Lion, Richard Cœur de Lion est capturé. Et l'empereur germanique Henri IV exige une rançon pour le libérer. On n'est pas sûr, évidemment, que Philippe Auguste n'ait pas intercédé auprès de l'empereur Henri IV pour que celui-ci garde dans une cellule, en quelque sorte, notre roi d'Angleterre. Mais on va voir à revenir de nouveau un personnage important sur la scène politique. C'est la mère de Richard Cœur de Lion, Aliénor. Elle va intervenir et finalement, Richard va revenir en Angleterre. Et il va s'opposer de suite d'ailleurs à son frère, qui est connu sous le nom de Jean Sans Terre, mais qu'on nommait, pour l'opposer à son frère Richard Cœur de Lion, on le nommait Cœur de Poupée. Ensuite, il revient sur le continent et il défait Philippe Auguste en 1194 à la bataille de Frédéval. Alors, ce n'est pas une grande défaite, hein. Philippe va rompre le combat, mais une chose importante va se passer parce que Philippe Auguste va y perdre son trésor. Son trésor, ses archives. Et qui dit perdre ses archives, ça veut dire aussi évidemment perdre tous les textes qui justifient évidemment l'ensemble, par exemple des impôts que le roi se doit de prélever sur un certain nombre d'individus, de propriétés ou autres. Enfin, l'année suivante, les choses ont l'air de se calmer et le De Roy signe un traité de paix à Gaillon. Richard se méfie et fait construire toute une série de châteaux entre la Normandie et le Royaume de France. Et bien sûr, le plus connu d'entre eux, c'est Château Gaillard, sur la rive droite de la Seine. La guerre continue et, chose qui était vraiment assez imprévisible, en 1199, Richard fait le siège du château de Chalut, qui n'avait pas une importance extraordinaire. Et là, il est atteint par un carreau d'arbalète. Au passage, l'arbalète était une arme interdite par la religion, par l'Église. parce que tout simplement, elle permet à un homme de tuer un autre homme sans mettre lui-même sa vie en péril. Et évidemment, la chose était considérée comme félonne. Et finalement, de cette blessure due à un corps d'arbalète, Richard Cœur de Lion va quitter la vie et il sera enterré lui aussi à l'abbaye de Fontevraud. En tous les cas, l'alerte a été vraiment chaude, comme on dit. Et Philippe Auguste décide à ce moment-là de conserver ses archives à Paris. Ça sera d'ailleurs le début de ce qu'on va appeler les archives nationales, mais aussi le trésor public. Et on va voir apparaître un personnage tout à fait extraordinaire, qui est un personnage, lui aussi probablement isarien, donc il est né dans l'Oise, et selon toute vraisemblance, il est né à Pont-Sainte-Maxence. Frère Guérin, c'est un moine hospitalier, donc un moine soldat. On a toujours aimé cette bivalence du soldat et du protecteur de l'Église. D'ailleurs, les Templiers sont souvent représentés sous la forme de deux chevaliers sur le même cheval. Un premier le soldat et l'autre, je dirais, à vocation religieuse. Et Frère Guérin, donc, apparaît à la cour royale dès 1197. C'est un moine hospitalier, donc un moine soldat, de l'ordre de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, évêque de Senlis un peu plus tard, il ne faut pas l'oublier. Pour nous, bien sûr, l'abbé de Chaly est assez important, puisqu'il va demander à être inhumé, lui aussi, à l'abbé de Chaly. Et le rôle de Philippe Guérin est souvent passé, je dirais, sous la barre de la renommée, alors qu'il a tenu probablement un des rôles les plus importants auprès du roi Philippe Auguste et aussi dans la constitution administrative du royaume. Alors, il est né vers 1157. Comme je le disais, c'est un hospitalier. D'ailleurs, il y tient. On le voit toujours représenté avec le manteau des hospitaliers, même lorsqu'il est évêque. Il va donc combattre les Sarrasins aux côtés des Francs, établis en Terre Sainte. Mais lorsqu'en 1314, d'ailleurs, beaucoup plus tard, les Templiers vont disparaître, eh bien les hospitaliers vont récupérer l'ensemble des biens des Templiers. Bien. Ensuite, l'ordre va s'installer à Chypre, puis à Rhodes, puis à Malte, où il se trouve en quelque sorte encore. Frère Guérin a sur le roi une influence de premier plan. On le qualifie de conseiller spécial, de maître du conseil, on le dit aussi premier conseiller. Donc le conseiller spécial du roi, en raison de sa sagesse dans le palais du roi et de son don incomparable de conseil, de telle façon qu'il s'occupe des affaires du royaume et des besoins des églises, comme s'il est le second après le roi. Le roi n'avait pas, à la mort de son dernier chancelier, il n'avait pas renommé un autre chancelier. Il se méfiait de toute façon des puissants qui pouvaient à un moment donné contester l'autorité royale. Donc sans en avoir le titre, Guérin va jouer le rôle de chancelier. Alors, notre frère Guérin, dont l'importance maintenant ne fait plus de doute, faisait partie de ce qu'on a appelé le conseil secret de Philippe Auguste. Alors, dans ce conseil qui était très réduit, il y a quelques personnages qui sortent du lot. Il y a frère Guérin, bien entendu. Il y a Guillaume de Roy, Henri Clément et frère Aymard. Frère Aymard, c'est un personnage, lui aussi. Il était commandeur du Temple, donc là, on est dans les Templiers, mais surtout, il était trésorier financier. C'est en quelque sorte le gardien du trésor. Et ce trésor était d'ailleurs gardé dans la forteresse templière de Paris. C'est donc un secrétariat, une curie réduite qui exerce la justice au nom du roi, émet des jugements sur les laïcs et les religieux, mais aussi intervient dans l'administration des grands comtés, vérifie les comptes des baillis, améliore la perception des impôts, ça c'est un éternel souci. Les fonctions sont séparées, donc une administration se met en place. Par exemple, les clercs qui emplissent les registres analytiques ne sont pas ceux qui travaillent au compte afin d'avoir ainsi une double comptabilité et pouvoir vérifier plus facilement, évidemment, les entrées et les sorties dans le trésor royal. Dans les années 1201-1202, il est à noter que les chartes royales se terminaient par « la chancellerie étant vacante », mais souvent, ça se terminait par « donner de la main de frère Guérin ». Vous voyez, donc, il y a peu de doute qu'on puisse affirmer que Guérin joue bien le rôle de chancelier. Et pendant cette même période, il préside aussi les sessions régulières de l'échiquier de Normandie. L'échiquier, c'est un peu la cour des comptes du duché de Normandie, hein, après que celui-ci ait été conquis par le roi. Et plus tard, surtout, il va s'occuper du trésor des Chartes, hein, sauvé par Saint-Louis. Alors ça, c'est aussi un point qui nous relie avec Chaly, puisque ce trésor est conservé dans la sacristie supérieure de la Sainte-Chapelle. Sainte-Chapelle que beaucoup plus tard, Saint-Louis... Alors, attention, on change de roi, là. On est beaucoup plus loin. On est deux générations suivantes au niveau des dynasties royales. Saint-Louis avait fait construire la Sainte-Chapelle. Hein, et vous savez qu'il y a une chapelle basse, une chapelle haute. Et il y avait une sacristie basse et une sacristie haute qu'on appelait le trésor des Chartes. Et ce trésor des Chartes présente, sur le plan architectural, une similitude tout à fait étonnante avec la chapelle Sainte-Marie de Chaly. C'était l'exacte reproduction. C'est aussi l'exacte reproduction d'une chapelle qui, hélas, a disparu, qui était la chapelle du prieuré Saint-Maurice de Senlis. Elle a disparu au 19e. Et sa facture était tout à fait semblable. Donc, on va le retrouver, notre chancelier, dans toutes les sessions de la cour. Et après la mort de Philippe, archevêque de Reims, il devient son successeur. Il est élu ensuite, on va le voir, évêque de Senlis. Mais je veux peut-être un peu vite. Disons simplement qu'il avait ses racines aussi dans notre région, puisque, alors qu'il continue à porter l'habit des hospitaliers, il va obtenir de Philippe Auguste un certain nombre de dons. Notons quand même que sa famille, alors bien sûr il n'a pas d'enfant, mais il a des neveux, sa famille a aussi des attaches ici dans notre région. Il est entouré de neveux et de nièces. Comme déjà suggéré, vous le savez maintenant, que Guérin va être élu évêque de Senlis. En 1213-1214, probablement à la suite d'une intervention du pape Innocent III qui voulait que frère Guérin influence le roi dans ses choix matrimoniaux. Hein, la bataille continuait. Et puis, vous le savez, donc, Philippe ayant renoncé à son divorce, donc à ce moment-là, rien ne s'oppose plus à la double investiture de Guérin comme évêque de Senlis, puisqu'il a à la fois, je dirais, la désignation papale et aussi, évidemment, celle du roi de France. Il continue quand même, comme je l'avais noté, de porter l'habit des hospitaliers. Il est entouré de neveux et de nièces, et on a des textes qui évoquent, évidemment, ces personnages qui gravitent autour de frère Guérin.
Pour un de ses neveux, Pierre, magister Guillermus de Moreto, l'abbé et le prieur de Saint-Germain-des-Prés enjoignirent le chapitre de Lisieux, en vertu d'un mandatement du pape Honorius III, de servir à maître Guillaume de Moret, neveu de Guérin, évêque de Senlis, étudiant en théologie, ses revenus comme s'il résidait à Lisieux. Un autre neveu, Nicolas, fut prieur Saint-Arnoux de Crépy. Il eut aussi une nièce, Esamburgis. Guérin possède des propriétés dans le sud de Paris dès 1202-1203, des maisons à Saint-Léger en Yvelines, Orléans et Loris. Il en acquiert une autre à Montreuil-Belay. Il reçoit une rémunération du bailli de Paris. Après son élection, il reçoit d'importantes donations royales.
Alors, on voit qu'effectivement, déjà à cette période, bien avant la bataille de Bouvines qu'on va évoquer, il a des propriétés tout à fait considérables et il a un pouvoir lui aussi qui s'affirme de plus en plus. Et pour rester dans notre région, on va trouver l'intervention de frère Guérin dans un jugement entre l'église de Saint-Nicolas d'Assy et la commune de Senlis. Il intervient comme arbitre dans de nombreuses querelles et conduit des affaires d'une grande variété. Alors, ça peut être des droits sur la forêt de Retz, les droits régaliens de Bourges et de Reims, la justice de Laon, etc., etc. Il acquiert donc une grande variété de tâches, et on le voit apparaître au moins 50 fois dans les comptes entre 1202 et 1203. Parmi les documents que nous avons encore, il y a un inventaire des joyaux de la couronne, donc qui date de 1206, et ses frères Guérin qui s'occupent de la distribution des pierres précieuses. On va le voir aussi intervenir avec les Juifs dans un conflit entre la commune de Rouen et le chapitre. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout dans l'affaire d'Ingeburge qui en avait fait son exécuteur testamentaire. Vous voyez ? Et c'est là où son rôle va être probablement le plus important. On peut penser que c'est probablement lui qui a mis fin à cette querelle qui paraissait sans fin. Avec frère Aymar, qu'on a évoqué tout à l'heure, il gère les mouvements de fond. Enfin, d'une façon générale, il codifie... Il organise l'ensemble des textes royaux, mais surtout de la comptabilité. On le voit aussi très soucieux de l'organisation du royaume, des structures des régions. Bref, il assume la responsabilité de toute l'administration du domaine royal. Mais une autre responsabilité allait subvenir. Nous arrivons aux opérations militaires de Bouvines. Alors, je passe évidemment sur les détails qui ont fait que d'un côté, Jean Santerre va s'opposer à Louis VIII, le Lion, mais de l'autre côté, son père va se retrouver confronté à une ligue en quelque sorte. La bataille s'engage assez mal. À la veille de la bataille, Guérin, dans un conseil des barons, pousse à un engagement immédiat. Et il a du mal, évidemment, à faire accepter sa proposition. Et on le voit haranguer les troupes et d'une façon générale, il va inciter Philippe II à ne pas tergiverser. Et c'est donc, je dirais presque contre la volonté des plus grands seigneurs, que la bataille va s'engager. Alors on est le 27 juillet... Un dimanche, et ça c'est important, parce que se battre un dimanche, c'est pas concevable. Hein.
C'est pas chrétien. Hein,
c'est pas très chrétien, tout à fait. Les armées en présence, c'est aussi très difficile. Disons que du côté de Philippe II, on a à peu près 1300 chevaliers, et entre 4000 et 6000 sergents à pied. Du côté des alliés, on a 1300 à 1500 chevaliers, et 7500 environ sergents à pied. Si le comte de Boulogne est partisan d'attendre, d'une façon générale, Hugues de Bob va emporter la décision et l'arrière-garde française s'aperçoit d'un seul coup que les coalisés sont en ordre de bataille. Frère Guérin propose donc d'aligner les troupes, qu'on vient de le voir, pour faire face, bien que les autres conseillers pensent que les troupes adverses ne vont pas quand même combattre un dimanche, c'est pas possible. Et comme le duc de Bourgogne confirme l'imminence de l'attaque, il avait été en quelque sorte envoyé en avant, comme il confirme cette attaque, le jugement de Guérin, il n'y a pas de problème, apparaît comme étant le bon. Alors Philippe ordonne de se préparer au combat et harangue ses troupes. Alors pour simplifier, disons qu'au centre, il y a le roi et ses conseillers, qu'on a parfois évoqués, Gauthier, Barthélemy de Roy, Guillaume de Garlande et le comte des Bars. À droite, c'est-à-dire sur l'aile droite, il y a Guérin et le duc de Bourgogne. Et à gauche, Robert et Philippe de Dreux. Philippe de Dreux, de Sang-Royal d'ailleurs, qui est le comte-évêque de Beauvais. Alors sur la droite, Guérin lance un contingent de cavalerie légère du Val de Soissons, suivent des combats de chevalerie et finalement, le comte de Flandre, blessé, est contraint de se rendre. Le combat continue. Au centre, Philippe est opposé à Othon, l'empereur d'Allemagne. Dans un premier temps, Philippe est désarçonné, mais il est sauvé par sa maisonnée. Et quelque temps après, c'est au tour d'Othon de choir. Mais les chevaliers de sa maison le sauvent. Finalement, l'empereur s'enfuit. Hugues de Bove et les ducs de Brabant se sont aussi également échappés. Sur l'aile gauche, on résiste. Le comte Robert et Philippe de Dreux affronte le comte de Bourgogne, Renaud de Dammartin, appuyé par le comte de Salisbury, qui s'appelait Guillaume de Longue-Épée, et finalement, après avoir longuement résisté, Renaud tombe et se rend à Guérin. Le comte de Salisbury est capturé par Philippe de Dreux. La stratégie de Guérin, qui a précipité la bataille contre un ennemi qui n'était pas encore organisé, a permis de remporter la victoire. De l'autre côté, évidemment, Jean Sans Terre n'attend pas son reste et s'en retourne en Angleterre. Il avait été défait à la bataille de la Roche aux Moines. C'est pas vraiment une défaite, hein, il n'a pas combattu. Alors la victoire de Bouvines appelait un témoignage de reconnaissance et sur les conseils de Guérin, d'ailleurs, Philippe Auguste fonde l'abbaye de la Victoire, que vous devez connaître, hein, quand vous empruntez la route Nanteuil-Senlis, avant d'arriver à Senlis, vous avez sur la gauche l'abbaye de la Victoire. On pourrait discuter d'ailleurs du terme abbaye de la Victoire, et si on prend le terme latin, c'est l'abbaye de Marie Victorieuse, qui est tout à fait différent. Enfin là, on est là sur quelques points de détail. Et cette abbaye va être fondée donc en 1221 et son abbatiale consacrée en 1225. Donc elle est bien dédiée à Marie Victorieuse. Elle est servie par 12 chanoines. Elle est appelée Victoria à cause de la victoire que Dieu a donnée à Bouvines. Victoria, c'est aussi d'ailleurs le nom d'un grand oiseau qui tourne au-dessus du champ de bataille où il hésite à se poser jusqu'à ce que la décision soit certaine. On mêle donc à la vision poétique les images du triomphe et la reconnaissance de l'aide divine.